7h19, François Gagnon, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Reprise des négos entre Washington et sans le Canada, par exemple.
Ouais, ben c'est ça, là. Ça commence à regarder mal. Va falloir que le gouvernement Trudeau tente de rassurer un peu ce qui est en train de se passer. Parce que cette semaine, on le sait, il y a des négociations intenses qui ont cours entre les États-Unis et le Mexique. On sera en Mexico aujourd'hui. Ça a commencé à Washington un peu plus tôt cette semaine. Puis là, on a comme l'impression, en tout cas, je ne sais pas si l'approche américaine est tentée de diviser là, pour mieux régner. C'est un peu le cas de Donald Trump, d'ailleurs. Là. Mais c'est comme si on veut... Ben, d'ailleurs, lundi, Lighthizer du département du commerce mentionnait que d'ici la mi-août, on devrait être capable de signer une entente entre les États-Unis et le Mexique. Ça veut dire quoi, ça, exactement? Est-ce qu'on est en train de geler le Canada pour dire, regarde, on a une entente avec le Mexique, voici les conditions dans lesquelles vous allez la signer, cette entente-là. Mettons qu'on est en train de se faire peut-être isoler là à l'heure actuelle, et là, le gros litige avec les Mexicains, c'était bien sûr les emplois pour la fabrication des pièces automobiles. On le sait que les Américains tenaient à avoir un plancher de 16 $ l'heure pour les employés qui fabriquent donc les pièces automobiles, et on voulait l'avoir à 50% aux États-Unis. Semble-t-il que là, on est en train de mettre un peu d'eau dans son vin du côté américain pour baisser cette frontière-là de 16 $ l'heure américain parce que c'est quand même 5 fois plus élevé que les Mexicains en termes de salaire. Là-bas, c'est autour de 3 $, 3,50 $ de l'heure. Et c'est la raison pour laquelle l'industrie automobile avait donc lancé des usines au Mexique pour que ça coûte moins cher pour la fabrication de pièces. Trump dit, je veux récupérer ces emplois-là. Alors, comment on va négocier tout ça? On ne le sait pas encore. Mais il reste encore de très, très gros points en litige avec le Canada. Je pense, entre autres, à la gestion de l'offre. Et là, Maxime Bernier a encore mis un pavé dans la mare. On sait, lui, il est pour l'abolition de la gestion de l'offre au Canada. Il dit, ça va passer par là. Est-ce qu'il devra y avoir des compromis de la part du gouvernement canadien pour être capable de signer cette entente de libre-échange-là? Il n'y en demeure pas moins que, est-ce que si on sacrifie le côté agroalimentaire comme preuve de bonne volonté, est-ce que l'agriculture va faire le poids justement dans cette négociation-là contre
mais
le secteur
en même temps, mais t'as raison de le mentionner, mais Maxime Bernier représente même pas le Parti conservateur dans ce cas-ci, parce que le Parti conservateur, on se rappellera que c'est une mobilisation des agriculteurs de la bourse
qui
l'a fait battre à la direction.
Effectivement, il a perdu, mais il continue quand même de taper sur le clou. Et ça fait certainement l'affaire des Américains parce que c'est une des portions qu'ils veulent avoir. L'autre problème, c'est la clause crépusculaire qui commence à causer beaucoup de problèmes. Plus ça niaise cette histoire de négociation de l'ALENA, moins il y a d'investissements au Canada de la part des entreprises étrangères et d'ici. Préfère aller investir aux États-Unis, c'est plus sûr que d'investir au Canada. Donc, il y a la clause crépusculaire. C'est quoi cette clause-là? C'est une renégociation obligatoire à tous les 5 ans que veulent les Américains. Et si il n'y a pas d'entente sur ces négociations-là à chaque 5 ans, ben là, il n'y a plus d'entente de libre-échange. Alors donc, ça met le Canada dans un inconfort total. En tout cas, on verra ce qui va arriver. J'ai bien hâte de voir la conférence de presse de cet après-midi pour connaître les tenants et aboutissants dans le secteur automobile et comment on est en train de se faire mettre de côté, nous, les Canadiens.
Un petit mot en terminant sur Bombardier qui présente ses résultats financiers.
Enfin, des résultats positifs. Enfin, un bénéfice net. L'année passée, on avait perdu 235 millions. Là, on a un bénéfice de 70 millions. Et là, ce qui est intéressant de constater, c'est que là, on est en train de sortir du périmètre comptable, la fameuse C-Series. Mm-hmm. On verra, en tout cas, au cours des prochains trimestres, parce que là, ce qu'on va tenir compte dans les résultats financiers, c'est la valeur de l'investissement dans Bombardier, dans l'accord avec Airbus et le gouvernement du Québec. Et on connaîtra un petit peu plus la valeur. Et d'autre part, ben, on apprend là-dedans qu'en sortant du périmètre comptable, tu es obligé de prendre une charge de 600 millions. Là. Mais ça, c'est une charge comptable, bien entendu. Alors, le bénéfice net aurait été pas mal plus élevé que ça. Donc, la restructuration d'Alain Balbard semble fonctionner et c'est ça qu'il va falloir surveiller. D'ailleurs, le titre était peut-être en légère hausse ce matin, après une perte de 3% hier, parce qu'il y avait une certaine nervosité concernant ces résultats financiers-là. Mais on verra aujourd'hui comment le titre va réagir. Et la conférence de presse qui aura lieu dans une demi-heure environ, que je vais écouter avec beaucoup d'attention pour savoir qu'est-ce qui va arriver pour la suite. Mais pour l'heure, très forte augmentation. Les résultats démontrent qu'il y a eu une augmentation pour les 6 premiers mois de 7% des revenus. Le bénéfice qui a donc grimpé pour cette période-là et également les commandes, ça va bon train et c'est surtout Bombardier Transport, encore une fois, qui va extrêmement bien. En tout cas, on verra pour le reste, Bombardier Transport et Aéronautique.
Merci beaucoup, François. Salut.
Plaisir.
Bye-bye. Il est 7h24.